Salut Maxime,
Salut Pierre.
bienvenue sur Cours Central. Déjà, merci beaucoup à toi de m'accorder ces quelques instants. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours dans le tennis, de ta passion, de ton rôle également de vice-président du club du TC Cénode et également de tes futurs projets. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Bien sûr, alors je m'appelle donc Maxime Guy, je suis originaire d'Annecy en Haute-Savoie. Voilà, j'ai 33 ans. J'ai un parcours très, très varié et très riche dans le milieu du tennis, puisque j'ai été enseignant diplômé pendant des années. Maintenant, je suis désormais bénévole et engagé un peu différemment dans le développement du tennis et aussi du paddle. Voilà, un petit peu mon profil. Je suis joueur en compétition aussi, bien sûr, toujours. Je suis classé actuellement 3-6. Voilà.
D'accord, super. Et du coup, comment t'es venue ta passion du tennis?
Alors, moi, elle est arrivée très tôt, très jeune. J'ai commencé avec mon père, très, très jeune, à l'âge de 3-4 ans. Le tennis a été tout de suite une passion, une envie vraiment de progresser. Donc, j'ai intégré ensuite un club de tennis, un petit club de tennis en Haute-Savoie. Et j'ai pratiqué pendant ensuite des années dans les différentes structures d'une école de tennis. J'ai été ensuite en sport-études. Et voilà, le tennis est venu comme ça. C'était vraiment tout de suite une grande passion. C'était aussi pour moi à l'époque, en tout cas quand j'étais jeune, un peu un défouloir, hein, puisque taper dans une balle libère un petit peu les choses. Voilà, mais ça a été tout de suite vraiment une grande passion. J'ai joué en compétition dès l'âge de 9 ans. Voilà, ça a été assez, assez rapide comme relation, si je puis dire.
Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à devenir pro ou ça t'a pas traversé l'esprit?
Bah, comme beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui se mettent à la compétition, je pense qu'on a toujours ça un petit peu en tête de se dire qu'on pourrait être très bon un jour. Donc oui, je l'avais en tête comme un rêve, hein, si tu veux, comme une ambition inavouée et puis inatteignable, mais je l'avais toujours en tête. Mais bon, voilà, mon niveau le permettait pas, mes qualités, en tout cas quand j'étais jeune, ne le permettaient pas. Mais ça a toujours été un rêve, effectivement, comme tout jeune aujourd'hui, je pense encore,
Oui, c'est vrai, c'est
dans
vrai.
le tennis. Hein.
C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entraîneur de tennis?
Alors, c'est arrivé un petit peu par hasard. En fait, après avoir passé le bac, j'avais différents projets en tête, projets de formation, projets d'études. J'ai pas pu les mettre en place, les mettre en œuvre. Et puis, j'ai eu l'opportunité de passer le brevet d'État. Donc, à l'époque, c'était encore le BE. Et donc, j'ai suivi la formation, j'ai obtenu mon diplôme. Et finalement, pas contre toute attente, mais finalement, j'ai pris un peu le virus de l'enseignement, de l'esprit club, du développement club. Et donc, je me suis engagé tout de suite dans deux clubs différents simultanément. Ensuite, j'ai changé, je suis allé dans un autre club un petit peu plus gros, un peu plus structuré. Mais effectivement, c'est le terrain, c'est la pratique de ce métier qui m'a donné envie de poursuivre, de continuer et qui a développé encore plus cette passion, hein, pour le coup, pour le tennis. Hein, le fait soit de transmettre cette passion, de former des jeunes, d'optimiser le jeu de joueurs club, de développer leur niveau, etc. Donc c'est venu un petit peu par hasard. Et ensuite, j'ai passé mon DES, diplôme d'état supérieur, parce que j'avais aussi très envie, j'avais une grosse appétence sur l'entraînement et sur le fait de monter en compétence aussi, que ce soit sur le développement de club, sur l'entraînement de bons joueurs club ou voire plus. Donc voilà, donc c'est venu un petit peu par hasard, mais je ne regrette pas, hein, bien sûr. Et j'en suis très heureux. C'est vraiment des années très riches. C'est une école de vie, hein, ce travail-là. C'est une école de la vie.
Et tu as fait ça pendant combien de temps?
J'ai enseigné pendant 10 ans. J'ai enseigné dans des structures, dans des clubs, donc structures associatives, et aussi au sein d'une académie de tennis privée qui s'appelle le Autexier Tennis, qui est du coup très intéressante parce que c'est le fondateur Serge Autexier qui avait développé une méthodologie d'enseignement très très spécifique basée sur la biomécanique. Donc très intéressante. Ça, moi personnellement, ça a pu compléter ce que j'avais déjà appris en formation, compléter mon expérience terrain. Mais il avait une approche un petit peu différente de ce que préconise la FFT dans leur formation. Voilà, un angle un petit peu différent, un petit peu complémentaire. Donc ça a été très intéressant. Donc le fait d'évoluer dans différentes structures en tant qu'enseignant, voilà, c'est une vraie richesse, je pense. Pour tout le monde, hein, pour tout enseignant.
Et du coup, justement, tu nous parlais de sa méthode d'enseignement un petit peu différente. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples?
Oui, bien sûr. Il reprenait tout simplement la base les principes de base de la biomécanique pour les décliner en éducatif, en correctif. Et ensuite, voilà, c'était la base de son enseignement était celle-ci, avec une approche très pragmatique, pardon, d'un geste technique, du mouvement du corps avant, pendant, après la frappe. Donc c'était vraiment la ligne conductrice de tout son enseignement, de tous les exercices, les éducatifs. L'exercice technique était vraiment les principes biomécaniques, avec des exercices qui sont un petit peu atypiques, comme par exemple sur l'apprentissage d'un coup droit, la bonne position de la tête de raquette au moment de la frappe, après la frappe. Voilà, les exercices éducatifs se faisaient par exemple de face. Alors, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut constater, on peut voir en termes d'enseignement dans les clubs, mais c'était une approche vraiment, vraiment très intéressante. Alors, je parlais bien d'éducatif, hein. Pas choquer des personnes qui pourraient dire, oh là là, attention, c'est pas du tout ce qui est préconisé. C'était vraiment des éducatifs. Mais en tout cas, c'était très intéressant.
Très bien, super. Et alors, donc là, c'était ta partie entraîneur de tennis. Après avoir été entraîneur, du coup, qu'est-ce que tu as fait?
Alors après, j'ai changé d'orientation professionnelle. J'ai souhaité un petit peu sortir du milieu du tennis et enfin, en tout cas de cette fonction d'enseignant parce que j'avais à cœur aussi moi personnellement de pouvoir m'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres opportunités professionnelles et monter en compétences aussi sur la gestion, sur le développement à savoir que ça donnait suite en fait si tu veux à l'obtention du diplôme d'état supérieur qui est très centré sur le développement, la gestion d'une structure sportive. Et dans cette continuité, voilà, j'ai voulu aller dans le privé, entre guillemets, et sur des fonctions complètement hors tennis. Donc, j'ai occupé des fonctions de responsable d'agence dans des secteurs complètement différents du tennis. Voilà, par exemple, le service à la personne. Donc, j'ai dirigé une agence dans ce secteur, dans ce secteur d'activité-là. C'est complètement différent, mais je retrouvais vraiment ce côté gestion, management et développement. Donc là, du développement commercial, mais du développement quand même. Voilà, et c'est grâce aussi au diplôme, au DES, à la formation, à l'expérience terrain en termes de développement de club. C'est vraiment des compétences qu'il faut, en tout cas pour les enseignants, vraiment mettre en avant. Alors, parfois, il faut réadapter un peu le vocabulaire, puisqu'on utilise dans les clubs un vocabulaire très tennis, très club, mais au final, en fait, les compétences qu'acquiert un enseignant dans un club lorsqu'il développe, lorsqu'il organise des événements, eh ben, c'est des compétences qui sont très transversales pour d'autres métiers dans le secteur privé. Et ça a été pour moi, en tout cas, une force et un appui fort pour occuper d'autres fonctions. Donc voilà, au travers de ce que je dis, je passe un petit message à tous les enseignants, en tout cas, pour leur dire que voilà, le milieu du tennis est une école, et que beaucoup de choses acquises peuvent être réutilisées, réadaptées dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs. Et c'est important que tout le monde l'ait en tête pour que, voilà, pour que les carrières professionnelles puissent, de chacun et chacune puissent se développer comme ils l'entendent et comme ils le souhaitent, parce que c'est possible.
Et pendant tes années dans le privé, j'imagine que tu es toujours resté proche du tennis. Tu jouais toujours.
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai continué à jouer j'ai toujours joué en compétition, hein. J'ai toujours été joueur. Donc j'ai continué, entre guillemets, ma petite carrière amateur de joueur. Voilà, continuer les tournois, m'entraîner, essayer toujours de monter un petit peu en classement et voilà, et garder ce contact toujours avec le club.
Super, super. Et alors du coup, comment t'es venu l'opportunité de t'investir pour un club?
Alors là, dans le club où je suis, donc comme tu disais, le tennis club de Seynod, qui est basé sur le bassin Annecy en Haute-Savoie, je suis entré au comité il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, pardon, pour apporter de l'aide et un appui sur le développement et surtout sur le développement des partenariats, puisqu'aujourd'hui, on sait que les clubs, à l'avenir, risquent de bénéficier de moins en moins de subventions. Donc le développement de partenariats privés et puis d'autres développements pour les clubs vont être très importants. Donc voilà, je suis entré par cette porte-là, entre guillemets, en tant que bénévole. Donc là, voilà, j'ai occupé la poste d'enseignant, maintenant je passe de l'autre côté. Donc j'ai apporté mon aide pendant une année, et puis depuis l'année dernière, depuis cette année, pardon, j'ai intégré le bureau du club. En tant que vice-président. Donc là, c'était suite à la démission du président actuel pour des raisons personnelles et professionnelles. Voilà, donc on a reconstitué une équipe dont je fais partie pour mener le club.
Ok. Et du coup, tu as fait quel constat, toi, en arrivant au club? Au niveau de la perte de licencié, etc.
Alors, nous, le constat, il était. On a un constat qui est quand même global, hein, sur la Fédération française de tennis, où effectivement on a une baisse globale des licenciés depuis des années, une baisse qui est plus ou moins forte et qui est parfois, dans certains territoires, un peu en augmentation. Nous, c'est vrai qu'en Haute-Savoie, on a quand même une région qui est très dynamique. Donc, cette baisse a pas été systématique, et sur certains publics, on a même vu des augmentations. De licenciés. Dans notre club, on a effectivement une baisse depuis plusieurs années. Nous, historiquement, le club comptait il y a 15 ans, 20 ans, 700, 800 adhérents. Aujourd'hui, le club a, pendant plusieurs années, était au-dessus de la barre des 500 adhérents, qui est une barre assez symbolique, hein, dans les clubs, puisque lorsqu'on passe la barre des 500, on peut considérer quand même que le club est un club important. Où il y a de la vie, voilà, il y a beaucoup de choses. Et là, depuis effectivement 5-6 ans, le club est passé en dessous de 16 barres, des 500 adhérents, et fluctue autour de 400, 450. Le constat, nous, en tout cas, sur le club, le constat le plus flagrant a été plutôt la fidélisation de nos adhérents. On est sur une zone, le bassin annécien est une zone où la population est très très sportive, où on a beaucoup de sport, on a aussi donc une grosse concurrence forcément. Donc les gens sont de nature sportive, donc vont essayer les différents sports qui existent, mais par contre il y a un gros mouvement, beaucoup de turnover au bout d'une année de pratique, et notre club déroge pas à cette règle. On a constaté que 60, plus de 60, enfin, environ 70% de nouveaux adhérents, si tu veux, quittaient le club au bout d'un an. Donc ça veut dire que l'intégration était pas géniale. En tout cas, on pouvait faire vraiment de nouvelles choses et des choses un petit peu plus prononcées. Voilà, donc on a, en tout cas, nous, le point prioritaire, c'est vraiment la fidélisation de nos adhérents. Ça va avec ce qu'on vit en ce moment. Là, c'est pour tous les clubs, effectivement, où le but est de satisfaire à minima l'envie de jouer de nos adhérents. Mais en tout cas, nous, ça a été vraiment un point fort. Et l'objectif est de redonner au club ce lieu de vie, ce lieu d'échange, ce lieu de partage, pour que les gens s'y sentent bien et y restent, hein, tout simplement.
Comment vous allez faire du coup pour fidéliser les adhérents?
Alors, il y a plusieurs actions qu'on va développer, qu'on va mener après une réflexion avec les enseignants et les membres du comité. On a mis en place une initiative d'amélioration de l'intégration, de l'accueil et de l'intégration de nos adhérents, de nos nouveaux adhérents, puisque c'était surtout le point le plus important. Mettre en place, pas un processus dans le sens où on va pas standardiser les choses, c'est pas le but. Mais en tout cas de mettre en place un parcours d'intégration un peu plus jalonné, un peu plus encadré de nos nouveaux adhérents. Donc ce qui se traduit en plusieurs temps, avec un temps d'accueil, avec beaucoup plus d'informations, de relance aussi sur les échanges qu'il peut y avoir avec les visiteurs et les potentiels futurs adhérents. Ensuite, des temps de découverte, des temps de rencontre en début de saison avec tous ces nouveaux adhérents pour favoriser l'échange, la rencontre. Un système de recherche de partenaires mis en place qui existait déjà, mais on l'a poussé un peu plus loin. Voilà, en tout cas, sur les 2 premiers mois, les 2, 3 premiers mois d'arrivée de nos nouveaux adhérents. Faire en sorte vraiment qu'ils se sentent très rapidement à l'aise, qu'ils puissent rencontrer rapidement des nouvelles personnes, des nouveaux partenaires. Voilà, ça c'est l'objectif numéro un. Et puis ensuite, sur la filiation générale, remettre en place un programme événementiel, un programme d'animation. Alors, moi, j'aime plus trop le programme d'animation, je l'ai dit, mais c'est un terme qui existe depuis des années dans le milieu du tennis qui me titille un peu. Mais en tout cas, voilà, je préfère dire remettre de la vie de club au travers des différents événements pour que les gens puissent se revoir et rejouer et reconsommer du tennis, en fait. C'est ça l'objectif.
Très bien. Est-ce que tu peux rappeler justement les infrastructures de votre club? Est-ce que vous avez
Bien
beaucoup
sûr.
de...
Oui, on a la chance d'avoir des infrastructures qui font partie des plus belles et des plus importantes de Haute-Savoie. On a 14 terrains, on a de tennis et de paddle, dont 9 extérieurs, 3 couverts, et 2 terrains de paddle depuis 2 ans extérieurs. Voilà, donc ça, avec un clubhouse en dur, un clubhouse avec un espace d'accueil, un espace bar. Voilà, on a vraiment des belles infrastructures et un bel outil pour promouvoir le tennis et le padel.
Super, super. Et comment vous avez fait ces derniers temps avec la crise du Covid pour maintenir justement le lien avec les adhérents, puisque bon, il y a un an, on n'a pas pu jouer pendant quelques semaines. Comment vous avez fait du coup?
Alors là, depuis la première chose, c'est qu'il y a eu les enseignants, comme beaucoup de clubs, je crois, ont réalisé à distance des petits programmes d'entraînement physique pour les jeunes du centre d'entraînement avec des vidéos un petit peu challenge qu'ils ont pu diffuser. Donc ça permettait de garder le lien avec les jeunes, principalement du centre d'entraînement. Après, on a eu aussi quand même la chance d'avoir, sur la période de après la période de confinement, d'avoir du beau temps. Ce qui a permis rapidement aux adhérents de pouvoir rejouer en extérieur avec les autorisations, bien sûr, gouvernementales. Donc, on a eu cette chance-là. Aujourd'hui, en termes d'animation, en termes de temps de rencontre, on a pas. Peu de choses ont été mises en place parce que aujourd'hui, on a une limitation du nombre de personnes. En termes de rassemblement, donc c'est pas facile. On essaye de communiquer au maximum avec les adhérents. Voilà, on est en train de vraiment redonner vie à ce lien et dynamiser cette communication avec les adhérents. On a essayé aussi d'être beaucoup plus actif et dynamique sur les réseaux sociaux. On a développé un compte Instagram pour et mis en place, par exemple, récemment un jeu concours, sur Facebook également, essayer de communiquer beaucoup plus. Donc, voilà, avec les outils digitaux, qui est une vraie force aujourd'hui pour les clubs, on a essayé d'être, depuis plusieurs mois, d'être vraiment plus dynamique et créer plus d'interactions avec tout le monde.
Vous avez aussi changé le logo du club?
Exactement. Donc depuis cette année, on a actualisé et modernisé le logo du club, la charte graphique qui du coup en est une déclinaison. Aujourd'hui, l'objectif pour la nouvelle équipe du comité, c'est de recréer, alors pas recréer, pardon, mais plutôt d'actualiser l'identité du club et presque en faire, j'ai envie de dire, une marque entre guillemets, dans le sens où le club le tennis club de Seynod puisse être vraiment différencié d'autres clubs par son identité visuelle, par son identité générale, son histoire, et qu'on puisse vraiment faire se démarquer en fait, hein, tout simplement, d'autres disciplines, d'autres clubs. Voilà, donc on a effectivement actualisé donc le logo, la charte graphique. On met en place pas mal de choses sur la communication. Notre site internet a été refait à neuf. Aussi en termes de visuel sur le site géographique, on va développer une signalétique. Voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place effectivement dans ce sens et suite à cette actualisation du logo.
Très bien, super. Et vous êtes combien dans l'entraîneur? Au club, du coup?
Alors, on a au club trois enseignants, deux diplômés d'État et une diplômée d'État supérieur.
Ok. Donc, du coup, chacun amène sa vision, ce qui fait que ça se complète bien, j'imagine.
Tout à fait. Ils ont tous les trois des profils différents. Quand je dis profils différents, c'est-à-dire une histoire sportive et une histoire tennistique un peu différente. Tous ont un bon niveau. Voire un très bon niveau. Donc on a une coach qui est négative, qui a moins 4-6, une autre coach à 0 et un autre coach qui lui est à 15, mais qui a une histoire sportive professionnelle très forte puisqu'il était joueur professionnel en football. Donc il a aussi cette richesse et cette expérience professionnelle dans une autre discipline qui est très très intéressante.
Il jouait à quel niveau en football?
Alors, il a joué plusieurs années en Ligue 2. Il a quelques mois joué en Ligue 1. Mais en tout cas, pendant des années, il a joué en Ligue 2. Donc, il avait un contrat professionnel à part entière. Ouais.
Super, super. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du paddle?
Bien sûr. Alors, le paddle, la nouvelle pépite du sport du sport, en tout cas de la Fédération française de tennis, puisque c'est un sport qui est très fort en Espagne, qui chez nous existe depuis je ne sais pas exactement, je dirais 3-4 ans, peut-être plus. Mais en tout cas, les clubs aujourd'hui, on dispose de pas mal d'installations en France. Il y a des régions qui sont peut-être un petit peu moins loties. Nous, sur la Haute-Savoie, on a plusieurs clubs qui disposent d'infrastructures de paddle. Alors, le paddle ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que le paddle a vraiment eu une énergie très positive dans les clubs dès l'ouverture de nouveaux terrains. Par contre, on constate qu'au bout d'un an ou un an et demi, on a quand même une sorte de stagnation, d'essoufflement un petit peu de la dynamique de découverte et de pratique dans les différents clubs. Donc, c'est assez intéressant dans le sens où je pense que les clubs pensaient que le paddle allait prendre un peu tout seul, allait attirer seulement par son côté ludique et attractif, ça allait attirer énormément de monde et que ça allait booster les clubs. Et finalement, on se rend compte que s'il n'y a pas un travail de communication, de promotion, de découverte qui est organisé et fait par les clubs, on se rend compte que comme d'autres disciplines, ça ne prend pas forcément autant qu'on ne l'aurait espéré. Donc aujourd'hui, les clubs en ont, en tout cas ceux qui ont eu des paddles depuis 2-3 ans, en sont conscients et aujourd'hui il y a une renouvelle dynamique de, de promotion de cette discipline, qui est aussi relayée par les comités, les ligues. Donc c'est voilà, c'est vraiment intéressant, et c'est aussi un vrai levier pour les clubs, puisqu'aujourd'hui les clubs, avec le beach tennis aussi, sont en mesure, s'ils ont les installations, mais sont en mesure de proposer une offre sportive plus large et plus variée, et qui peut toucher beaucoup plus de public. Donc c'est vraiment un levier très fort de développement pour les clubs aujourd'hui.
Comment tu l'expliques, l'essoufflement, justement, au bout d'un an de la pratique? C'est-à-dire, les gens testaient, ça leur plaisait, et puis après, ils se disaient, bon, finalement, je vais faire autre chose ou...
Alors, je pense, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être pas accroché, hein, comme toute découverte d'un sport. Il y a aussi un point important, c'est que, contrairement au tennis, le paddle étant assez frais et nouveau dans l'environnement sportif de nos clubs, il manquait, alors c'est pas le cas de tous les clubs, mais beaucoup de clubs qui venaient d'avoir des installations n'ont pas forcément formalisé et développé une offre d'enseignement non plus. Et le fait de découvrir un sport, de se dire c'est sympa, c'est chouette, je m'amuse, mais j'ai pas l'opportunité d'apprendre à un petit peu mieux jouer, à mieux maîtriser mes coups, etc. Je pense que ça a été aussi un frein au développement, en tout cas. Il y a un frein à la pratique régulière. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, hein, de mettre en place une nouvelle offre d'enseignement, mais de manière pérenne, hein, j'entends. Hein. Et je pense que ça a un peu limité aussi le développement, parce qu'on a constaté parallèlement énormément de tournois de paddle en France. Donc, dans un sens, l'aspect compétition se développe énormément avec la multiplication de tournois plus ou moins du P100 jusqu'au P500. Et puis parallèlement, on n'a pas d'offre interne club d'enseignement qui permet de structurer la progression des gens. Donc je pense que ça a été un frein. Après, il y a aussi la découverte. Hein. Tout le monde certains sont des fois un peu réticents à essayer. Voilà. Mais bon, c'est tout le job d'un club de promouvoir et de rendre accessibles les nouveaux sports.
Et par exemple, vous avez mis quelle action, vous allez mettre quelle action pour développer le paddle dans votre club? Ouais.
Alors nous, effectivement, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre complètement dans la description que je donnais, c'est qu'on n'a pas d'offre d'enseignement qui a été mise en place. On a organisé beaucoup de tournois, mais pas d'offres d'enseignement. Finalement, on a aussi organisé peu d'animations. Donc là, l'objectif pour ce printemps, les restrictions gouvernementales disparaissent, c'est de pouvoir organiser effectivement beaucoup plus d'animations, de découvertes et de moments conviviaux de partage autour du paddle, et aussi de construire une offre d'enseignement pour les saisons à venir, si possible dès la saison prochaine. Construire une offre d'enseignement pour les enfants et pour les adultes.
Mmh. Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont à peu près combien dans votre club à pratiquer le paddle? Vous avez les chiffres ou c'est difficile de...
Ouais. Aujourd'hui, si tu veux, aujourd'hui nos la plus la plupart des joueurs qui jouent au paddle sont des joueurs de tennis à la base. Mmh. Maintenant, en termes d'adhésion, pour donner un exemple, les joueurs qui sont uniquement paddle et qui sont inscrits au club uniquement sous une adhésion paddle, aujourd'hui on en compte entre 20 et 30. Ce qui n'est pas énorme. Par contre, on a un vivier de 50-60 joueurs de joueurs de paddle en tout. Mais voilà, il y a des clubs. Je parle dans le Lyonnais, en tout cas vers Lyon, qui comptent plusieurs centaines ou au moins une centaine de joueurs uniquement paddle qui viennent d'autres disciplines, qui viennent du foot, du basket, enfin peu importe. Mais voilà, donc on a vraiment une marge de progression sur ce point-là.
En sachant que vous êtes combien, 430 adhérents à peu près?
C'est ça. Là, cette année, effectivement, l'année dernière, on a fini à 430, 440. Là, cette année, on est autour de 400 pour l'instant. 400 adhérents, 400 licenciés. Avec la période du Covid, ça a été compliqué. On est à ça, quoi.
Ok. Alors maintenant, pour la dernière partie, on va parler un petit peu de tes projets futurs. Est-ce que tu pourrais nous parler de Carré Sport, s'il te plaît?
Avec plaisir. Alors, Carré Sport, c'est une activité que je lance en ce moment, que je vais lancer très, très, très prochainement. Une activité indépendante de soutien et d'aide au développement des clubs, puisque au travers de mon expérience d'enseignant et maintenant de bénévole, j'ai constaté, j'ai observé vraiment des enjeux forts pour les clubs. Les enjeux forts pour les clubs sont aujourd'hui attirer des nouveaux pratiquants. Donc ça, c'est un enjeu qui est aussi national, mais pour les clubs, c'est très important. Fidéliser ses adhérents, développer les partenariats. C'est trois enjeux qui sont très forts pour les clubs. Et aujourd'hui, les clubs n'ont pas forcément les outils ou la méthode pour répondre à ces enjeux-là et mettre en place des plans d'action qui soient adaptés à leur localisation, à leur particularité, voilà. Et à leur projet aussi de développement, puisque chaque club a potentiellement un projet club. donc de ce constat, j'ai pris quelques mois pour réfléchir à ce qui était important. Donc aujourd'hui, je lance l'activité Carré Sport, qui proposera des solutions et des services clés en main pour les clubs, pour les soutenir et les aider dans le développement, dans leur développement. Et ce sont des services qui sont spécialisés dans la communication, dans le web et dans le sponsoring. Pourquoi la communication et le web? Aujourd'hui, un club, ça participe au constat que j'ai fait, aujourd'hui un club, s'il veut développer sa communication, s'il n'a pas les compétences en interne, des ressources qui permettent de s'en occuper, on va dire la seule possibilité, s'il veut faire une communication un petit peu plus professionnelle, un petit peu plus dynamique, c'est de solliciter une agence de com. Aujourd'hui, les agences de com sont inaccessibles en termes de budget à des associations sportives. Donc, mon objectif était aussi dans cette activité de démocratiser l'accès à des services de communication professionnelle, mais pour les clubs. Ainsi, et pour le web, c'est exactement la même réflexion. Donc, aujourd'hui, je suis très content de lancer cette activité. C'est vraiment une activité d'aide et de soutien pour tous les clubs, pas uniquement tennis, puisque les associations sportives, on en trouve dans toutes les disciplines, et toutes les disciplines ont à peu près les mêmes enjeux. Donc aujourd'hui, voilà, l'objectif est de leur apporter les outils et les services nécessaires pour répondre à leur vision, à leur développement.
Et tu es tout seul dans cette activité ou tu as des associés?
Alors non, je suis tout seul. Je suis tout seul. Après, je travaille avec différents partenaires qui eux sont spécialisés dans certains domaines. Je prends l'exemple, je vais travailler aussi avec dans les différents services. Je propose de réaliser des vidéos avec drone, par exemple, qui est quelque chose qui est pas force, enfin qui est connu, mais en proposant ce service, c'est aussi le but, c'est de simplifier la démarche et l'accessibilité à ce type de prestations pour les clubs. Donc là, j'ai fait appel à un professionnel qui est pilote professionnel, qui a toutes les autorisations, les certifications nécessaires. Donc là, voilà, je n'ai pas de compétences en termes de pilotage de drone. Donc là, voilà, sur certaines prestations particulières et services, je fais appel à des professionnels. Après, pour le développement de ce projet-là, effectivement, je suis seul sinon.
Et par exemple, tu vois, moi, je travaille pour un club de sport. J'ai besoin de refaire mon logo, ma communication, mon site internet, ma charte graphique, mes réseaux sociaux. Toi, tu arrives et tu proposes un package avec toutes
exactement.
Les options disponibles, quoi.
Et exactement. C'est dans chaque pour répondre à chaque enjeu, il y a une multitude de services qui peuvent être sous forme de package ou à la carte, entre guillemets, mais qui répondent vraiment aux besoins de chaque club. Donc effectivement, un club qui souhaite moderniser sa communication, actualiser son image, développer sa présence aussi sur les réseaux sociaux pour développer une communauté d'abonnés, qui sera par la suite aussi une force pour développer les partenariats. Voilà, je propose des services d'actualisation du logo qui se déclinent en charte graphique, qui se décline après sur tous les supports de communication du club, que ce soit des supports administratifs ou publicitaires. Voilà, c'est vraiment, vraiment prendre en main et aider, en fait, aider, que les clubs puissent déléguer cette partie qui peut être un peu technique à quelqu'un d'extérieur et voilà, et répondre à cet objectif de dynamiser et actualiser la communication. Ça vaut la même chose aussi pour l'aspect, je parlais des partenariats. C'est l'enjeu, en fait, dans l'étude que j'ai menée, pour être tout à fait transparent, c'est l'enjeu numéro un, le sponsoring, le développement des partenariats. C'est l'enjeu numéro un qui est sorti de l'étude que j'ai menée l'année dernière auprès des clubs. Et aujourd'hui, les clubs sont aussi, sur cet aspect-là, sont en manque d'outils et de méthodes pour développer cette activité de partenariat. Donc, pareil, je propose des services de création d'un dossier de sponsoring imprimé ou numérique, une méthodologie dans la conduite de rendez-vous, dans la prospection, quelle entreprise on va cibler, pourquoi on les cible eux, quels sont les atouts du club. Enfin, voilà, ça va vraiment de l'outil à la réflexion en amont sur comment on va développer notre activité. Parce que voilà, on le sait, dans les associations sportives, beaucoup fonctionnent encore, hein, et ça marche, hein, c'est aussi quelque chose qui marche, mais qui est très minoritaire. C'est voilà, on connaît un petit peu 2-3 chefs d'entreprise, on leur demande un petit billet entre guillemets pour soutenir le club. Mais ça, c'est ça. Mais dans le temps, ça a un petit peu ses limites, et selon où le club est positionné géographiquement, c'est peut-être pas le levier le plus prioritaire à utiliser. Donc voilà, donc vraiment les aider sur tout cet aspect méthodologie.
C'est un beau projet en tout cas.
Et tu... Oui, alors...
Vas-y.
Oui, j'allais dire oui, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que voilà, moi j'ai toujours été animé par le développement de club, je le suis bien sûr toujours, et c'est vrai que ça fait mal au cœur quand on constate que il y a des clubs qui baissent un petit peu en intensité, qui baissent en lumière, enfin voilà, qui sont un peu moins attractifs, et puis aussi sur la fonction de dirigeant, de bénévole, qui est aussi très dure quand même, hein, faut le souligner. C'est un investissement personnel qui est fort pour chaque bénévole dans tous les clubs, et on peut aussi constater parfois des bénévoles qui s'isolent un peu, qui prennent en charge énormément de choses, enfin, voilà, c'est vraiment pas facile. Donc aujourd'hui, s'ils peuvent s'appuyer sur d'autres ressources pour les accompagner, je pense que c'est aussi quelque chose qui est vraiment important pour leur bien-être. Ouais.
Super, bah écoute, merci beaucoup Maxime.
Merci à toi Pierre, avec plaisir.
À très vite.
À très bientôt.
Salut.
Ciao. Au revoir.